je garde certaines choses pour moi.
Tout petit, je voulais être Madame Avon aussi. J'adorais ça. Je jouais à ça des heures de temps.
Tu sais, pas du tout. Moi, j'ai le goût que ça soit heureux, puis je travaille vers ça. Puis, tu sais,
moi, je suis pour la souveraineté, mais si j'ai 20 gorlots qui grimpent sur le pont pour la souveraineté, je suis pas plus d'accord sur le principe, là, tu sais, puis...
Sans filtre.
Et notre sans filtre aujourd'hui est avec l'auteur et conférencière Kim Thuy. Kim Thuy qui parcourt le monde pour nous parler de ses livres fabuleux. Merci, Kim.
Oui, aujourd'hui, je parcours juste nos rues de Montréal.
Ouais. Ah, mon Dieu, ouais, parle pas là-dessus. Et je relisais, hier soir, j'ai parcouru à nouveau Vie. Et bien sûr, j'ai bien sûr lu ton nouvel ouvrage qui est un bel objet.
Oui.
Tu sais, on parlait des cadeaux du temps des fêtes, le poisson et l'oiseau.
Oui, pour moi, c'est une œuvre d'art.
Oui,
en fait,
c'est
de
vraiment
Roger.
Une œuvre.
C'est un illustrateur extraordinaire et il n'avait jamais travaillé de l'aquarelle jusqu'à ce texte, jusqu'à ce que je lui propose cette histoire-là. Et les images sont venues tout seules dans sa tête, apparemment, avec l'aquarelle.
Et cette histoire-là, t'es venue, toi, à un moment donné, en sortant de la douche?
Non, même pas. Je me réveillais à Mississauga. Oui, c'est ça.
Toi, t'es inspiré par Mississauga.
Exactement.
Tu me diras comment tu fais
ça. Hein, ça vient de loin.
Et c'est une histoire, donc, par le truchement d'un poisson qui s'ennuie dans son bocal puis qui va à la rencontre d'un oiseau.
Oui, tout simplement. Ben, on voulait illustrer, en fait, la beauté de la différence.
Ouais.
Comment on peut admirer la différence de l'autre, qu'on n'a pas besoin de l'envier ou de tolérer ou d'accepter, mais vraiment admirer. Parce qu'on, comme moi, je ne sais pas du tout comment dessiner, donc j'admire Roger tout simplement. Et à l'inverse, ben Roger, ben, il n'avait pas une histoire en tête, donc il était content que j'arrive avec une histoire. Donc vraiment, il y avait une admiration de part et d'autre, de un. Puis deux, ben, je suis tombée sur la citation d'Albert Einstein qui dit « Si tu demandes à un poisson de grimper un arbre, il passe toute sa vie à penser qu'il est idiot. » Et ça, je l'ai appris à travers mon fils autiste. On pense qu'il ne comprend pas parce qu'on s'attend à ce qu'il pense comme nous, mais il a un cerveau qui fonctionne différemment. Mmh. Et dès qu'on le regarde avec son fonctionnement et non pas le nôtre, on découvre, mon Dieu, qu'il comprend parfois, dans certains domaines, plus que nous, beaucoup plus que nous. Il voit des détails que moi, je ne verrais pas. Par exemple, il voit le vent, ben, il sent le vent sur sa peau alors que je ne savais pas du tout. Et depuis, je fais comme lui, je sors dehors puis je sens le vent, je laisse le vent caresser ma peau. Et c'est la plus belle, je sais pas, méditation ou sinon le plus beau traitement de beauté.
Les enfants font ça.
Oui,
les
c'est ça.
Les enfants font ça.
Mais on fait plus
on
une
fait
fois
plus.
Qu'on est adulte.
Il se passe quelque chose du passage de l'enfance à l'adulte.
Oui, qui nous dérange.
Qui nous rentre dedans. On dirait qu'il y a comme un passage douloureux. D'ailleurs, ça s'appelle l'adolescence. évidemment, ton histoire à toi d'enfant et d'adolescence est assez chargée.
Oui.
Bon, et tu l'as raconté, ça fait l'objet. D'ailleurs, je disais dans une des entrevues que tu avais données il y a quelques années, tu disais, moi, je crois pas que je pourrais écrire sur quelque chose que j'ai pas vécu. Tu dis, mais faut que je l'ai senti,
oui.
Que je l'ai goûté, que je l'ai vu. Fait que dans tes livres, dans le
ça
fond,
fait.
Ton œuvre littéraire, c'est toi.
Oui, oui, oui. Mais comme Vie que tu as parcouru hier, c'était beaucoup sur les voyages. Et c'est vrai que quand je voyage, je vois très peu de la ville où je me trouve parce que je reste normalement là, 48 heures maximum, mais des fois juste 36 heures. Tu sais, je suis allée jusqu'à Kiev pour être là juste pendant 36 heures. Donc, je n'ai pas vu grand-chose, mais j'ai rencontré beaucoup de gens à chaque voyage. Et rencontrer une personne, c'est lire un livre, c'est être dans la bibliothèque d'un humain. Là. Et donc, je voulais partager ça. De toutes ces rencontres-là.
Mais dans tous tes romans, on sent l'histoire familiale, on sent l'importance, le respect de la famille.
Oui, et aussi, je voulais partager cette culture vietnamienne que je connais un peu, mais pas tant. Et c'est en écrivant que je découvre moi-même la culture vietnamienne. Puis je trouve ça beau, tout simplement, parce que je peux la comparer avec la nôtre, avec la québécoise.
T'as des souvenirs de... Enfin, on t'a raconté, ça a été un passage d'histoire familiale de façon orale? On te l'a raconté, tout ce que tu nous racontes,
oui, mais aussi,
ton arrière-grand-père et tout ça?
Oui, parce qu'on est nombreux à table. On est souvent, une trentaine, quarantaine. Puis c'est pas juste à Noël, que ce soit l'été, une excuse, un mariage, n'importe quoi, un prétexte quelconque, on se retrouve autour de la table. Puis quand on est plusieurs autour de la table, ben l'histoire revient. Parce que j'ai perdu ma grand-mère seulement il y a 3-4 ans. Donc nécessairement, les histoires reviennent. On parle de lui Et ma grand-mère disait souvent, elle dit, ah, comment tu dis ça, donc pauvre mon mari, il n'a pas eu la chance de vivre assez longtemps pour profiter de ce bonheur familial. Ouais. Alors, elle s'assoyait au bout de la table, puis elle disait toujours ça, puis elle dit, ton grand-père, s'il était ici, il aurait dit ceci, il aurait dit cela. Et j'ai perdu mon beau-père depuis 10 ans maintenant, et chaque fois, vraiment, là, les gestes et tout ça, je fais de façon consciente. J'ai à mon fils, j'ai dit, tu vois, si ton grand-père était ici, il t'aurait emmené aux Olympiques, par exemple. Parce qu'il avait planifié avant son décès de partir aux Jeux olympiques à Vancouver. Puis, ben, il décédait avant. Et donc, à chaque jeu, je dis toujours à mon fils, je dis, tu vois, si ton grand-père était ici, vous seriez aux Jeux aujourd'hui. Donc, c'est juste pour que la mémoire continue, parce qu'on ne vit jamais tout seul. On vient de quelque part et puis on s'en va, ben, puis on transmet aux enfants. Donc, je fais le pont entre ces deux générations-là.
Est-ce que tu trouves qu'on le fait assez ici?
Probablement pas. Tu vois, j'ai découvert la bibliothèque a toujours existé, sauf que je ne savais pas qu'elle existait. La bibliothèque des archives qui est sur Vigée. C'est un building, mais magnifique. Un bijou de la ville, mais qu'on n'entend jamais parler. Et dans cette bibliothèque-là, mais on nous retrouve, nous. Il y a soit des photos et des écrits aussi, il y a 60 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans, et on n'écrivait pas de la même manière, on ne s'habillait pas de la même manière, mais en regardant ces archives-là, on comprend ce qu'on fait aujourd'hui, pourquoi nous sommes qui nous sommes aujourd'hui. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez.
Non,
et c'est seulement dans un pays riche que tu peux avoir le luxe d'archiver. De luxe, de l'histoire. Parce que dans un pays en guerre, oublie ça. Tout est brûlé.
C'est brûlé, c'est détruit.
Tu vois, pour le Vietnam.
On casse la mémoire.
Oui, puis il n'y a même pas d'historien. Parce que, tu sais, comme par exemple, là, tu prends la Syrie en ce moment, là, qui a le temps de s'asseoir pour écrire l'histoire collective?
Ouais.
Ben non, tu cours, tu te sauves. Et en plus, tu n'as pas assez d'informations pour écrire une histoire objective.
C'est vrai.
Ben, objective, une histoire de façon scientifique. Alors, le Vietnam, si tu veux avoir l'histoire du Vietnam, il faut aller en France ou aux États-Unis. Mais dans ce cas-là, ce sont des livres qui sont écrits à partir de leur point de vue.
Ouais.
Tu sais, la guerre du Vietnam... en Occident, on appelle ça la guerre du Vietnam. Mais si tu vas au Vietnam, on parle de la guerre américaine. Parce qu'on était, on était de l'autre côté.
On a tous un biais, finalement.
Mais ça dépend du point de vue.
Ça dépend de quel bord de clôture que tu es.
Exactement. Donc, il faut des historiens qui sont objectifs au-dessus de tout ça pour le faire. Et ici, dans notre pays, un pays en paix, on peut avoir ce luxe-là, l'histoire, la transmission, ce qui vient avant, ce qui vient après. Bon, en tout cas, tout ça ensemble, on est tellement riche, c'est extraordinaire.
Ouais. Et les gens sont avides de ça. Mais ceux qui décident pensent que ça ennuie les gens, et c'est faux. Au contraire, les gens sont passionnés par ça. Ça passe trop vite, Kim Thuy, tu bouges pas.
C'est déjà fini?
Non, on revient tout de suite après ceci. Notre entrevue sans filtre est avec Kim Thuy aujourd'hui. Kim Thuy est mon invité de cette entrevue sans filtre. On pourrait parler des heures avec Kim. Si vous n'avez jamais lu un de ses romans, il faut à tout prix corriger ça. Les amis, je vous recommande à peu près tout ce qu'elle écrit, et incluant ses posts Facebook. Parce qu'hier, puis c'est dans l'actualité, alors tu me permettras de te lancer là-dessus. Parce qu'hier, tu disais, selon la liste actuelle du marché de l'emploi de notre gouvernement, nous n'aurions donc pas besoin de un chef d'orchestre comme Kent Nagano ou Yannick Nézet-Séguin, joueur de tennis comme Bianca Andreescu ou Félix Auger-Aliassime, écrivain comme Dalila Ferrière, environnementaliste comme Laure Varidel, homme d'affaires du cirque comme Guy Laliberté, danseuse comme Louise Lecavalier, anthropologue comme Serge Bouchard, biologiste, océanographe, humoriste comme Boucard. Diouf, qu'aurions-nous été sans eux? Que serions-nous sans eux? Ne faut-il pas de tout pour faire un monde? On n'aurait pas, je pourrais rajouter, nous n'aurions pas Kim Thuy, auteur. Et je suis tellement contente parce que c'est exactement ce que je pensais. Je me disais, tu sais, il y a des films où tu vois, là, à la fin, c'est la fin du monde. Puis là, il y a trois bateaux. Puis là, on met juste des gens importants. C'est comme si tu avais un ticket. Puis là, qui on prend? On prend juste des gens scientifiques. Mais ça peut pas être juste des scientifiques non plus.
Non, parce que
dans
une société, c'est beaucoup plus que ça. On est une société, on n'est pas une compagnie. C'est très différent de gérer une compagnie que de construire un pays. Parce qu'un pays, c'est la culture d'un pays, c'est un peuple. On a une identité. Et donc, c'est autre chose que c'est pas un check and balance. Comme on dit, on regarde pas un bilan financier. Est-ce que ça rapporte ou ça rapporte pas?
C'est ça qu'on fait en ce moment.
Plus que ça. Ouais. Je crois.
Mais toi, tu déplores le fait que dans la liste du gouvernement du Québec pour accueillir des nouveaux immigrants, on n'est pas d'artiste, par exemple.
Ben, on n'aurait pas, si c'était moi, on ne m'aurait pas choisi parce que j'ai fait droit. Et le droit ne fait pas partie de la liste. Ouais. Et oui, peut-être que je choisis d'étudier le droit qui m'enseigne comment réfléchir,
Qu'organise la pensée.
Exactement.
Qui te force à travailler fort, parce que c'est quand même ça.
Exactement. L'endurance,
persévérance.
La rigueur. Ouais. Hein, beaucoup. Oui, j'ai travaillé comme avocate, mais la beauté de notre pays, c'est qu'on peut se permettre de se réinventer. On a le droit et on a cette richesse. On a un terreau fertile pour que les gens aillent jusqu'au bout de leur potentiel. Non pas seulement à répondre aux besoins d'un marché, mais de créer un marché. Tu sais, le premier monsieur qui a inventé l'Internet, là, c'était pas sur une liste « on a besoin d'Internet ». C'est de sa tête à lui qui a dit il faut rendre il faut connecter tout le monde, il faut faire un réseau international ou quelque chose comme ça, mondial. Là, je dis n'importe quoi parce que je connais pas l'Internet, mais t'es d'accord avec moi?
Oui, complètement.
Donc, la première personne qui a pensé à ça, c'est pas pour répondre à un besoin du marché. Donc, quand on ne fait que répondre, on est juste réactionnaire, alors qu'on doit être proactif. On doit être devant le marché et non pas seulement répondre.
Il faut être créatif.
Il faut aller jusqu'au bout de ce qu'on est capable. Et quand on y pense, même une compagnie comme Ubisoft, et ça le recteur Guy Breton l'a dit, on engage beaucoup d'auteurs pour écrire les histoires, mais aussi...
Des historiens.
Ouais. Sinon...
Des recherchistes.
Des architectes. Ouais. Hein, pour redessiner justement la cathédrale.
Dans Assassin's Creed, on a eu d'ailleurs un de ceux qui ont travaillé sur le projet, puis au moment où la cathédrale Notre-Dame a brûlé, on a utilisé les plans de cette entreprise-là qui vient d'ici, qui vient de Montréal.
Mais
qui
c'était pas quelqu'un en informatique. Là. C'est quelqu'un qui avait une connaissance en histoire et en architecture. Et en toutes sortes de
Laurent Turcot, voilà, chercher le nom, merci Normand. Tu trouves que c'est dangereux, soit d'avoir ce biais-là tout le temps? On va prendre des gens pour répondre à nos besoins du marché du travail.
Non, mais ça veut juste dire qu'on est un pays tellement riche qu'on peut laisser aller les personnes éduquées. Tu sais, il y a beaucoup de pays, aujourd'hui encore, où l'accès à l'éducation est très difficile, dont le pays manque de matière grise d'une certaine façon. Et on essaie d'attirer la matière grise. Et il y a beaucoup de pays, et même ici au Canada, pendant longtemps, on a discuté sur comment faire pour retenir les étudiants étrangers, parce que les étudiants étrangers, ils viennent ici, ils payent pour leurs propres études. On ne paye pas pour les études, ils payent pour leurs propres études selon un système créé par nous, selon notre culture à nous et parler notre langue à nous. Et après, on les laisse aller. Ah non, on les a eus gratis, là, d'une certaine façon. Donc, on n'a pas eu à les élever, surtout s'ils arrivent ici au niveau baccalauréat ou maîtrise ou doctorat. Ils ont été élevés par leur pays d'origine. Ils ont mangé là-bas, grandi là-bas. Ils arrivent ici et ils font juste enrichir nos connaissances. Alors, comment on fait pour les laisser aller? Il faut être très riche comme pays pour dire on n'a pas besoin.
Ou aveugle.
J'irais dans le positif, c'est que, le gouvernement, il se dit, on est bien trop riche, on ne veut pas plus. On n'en veut plus. On ne veut pas plus de connaissances. C'est ça. Mais sincèrement, pour moi, et ça, j'ai eu la chance de rencontrer une physicienne qui m'a dit, parce que je ne connais rien en physique, donc je lui ai posé la question, pourquoi est-ce que les humains veulent toujours savoir plus et plus et plus et plus? C'est quand la fin? Et elle m'a dit, est-ce que tu connais l'infini? J'ai dit, oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin. Elle dit, est-ce que tu connais la notion des connaissances? J'ai dit, oui, c'est ce qui m'allume. Elle dit, les connaissances, c'est la seule forme de l'infini que l'humain puisse expérimenter. Parce que l'infini, tu ne peux jamais toucher.
C'est vrai.
Sauf que les connaissances, on en prend tous les jours. En t'écoutant à la radio, j'apprends des choses.
Et moi, en t'écoutant en ce moment. Non, mais c'est vrai qu'il y a...
Non, mais c'est ça. Mais,
tout à fait, t'as raison.
Et c'est beau, non? Que les connaissances sont la seule forme de l'infini que l'humain puisse expérimenter.
C'est vrai. Soyons curieux.
Ben oui. Et donc, vous imaginez ce pays qu'on ait toutes ces personnes-là, avec toutes ces connaissances-là, et travaillent ensemble pour donner un résultat exponentiel. Parce que ça devient un cocktail.
Kim, t'es fabuleuse. Merci beaucoup d'être venue nous voir. Tu reviens quand tu veux. On recevait Kim Tué aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. À demain.
Merci.